Catherine Poulain, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous publiez Le Cœur Blanc, votre second, non, votre deuxième roman. On l'espère, il y en aura bien d'autres après. On se souvient évidemment du Grand Marin. Et d'ailleurs, avant de parler du Cœur Blanc, j'aimerais avec vous revenir sur ce premier livre qui a été un véritable phénomène d'édition. Concrètement, dans votre vie, qu'est-ce que ça a changé pour vous, le succès du Grand Marin?
Ou avant tout, ça a changé que j'ai quitté mon travail de bergère, j'ai quitté mon travail d'ouvrière agricole. Ça, c'était un gros changement. J'étais très inquiète parce que je me suis dit, si j'ai plus ça, est-ce que je ne vais pas perdre mon équilibre, mes racines? Et je me suis dit, il faut essayer. Donc, je me suis acheté une vieille petite maison rouge que j'ai remis en état, qui est enfin un espace où maintenant j'espère écrire d'autres livres. De toute façon, j'ai revu il y a 2 jours la jeune femme et son mari pour qui je travaillais, pour qui j'étais bergère. Et elle a reconnu, elle m'a dit, mais il y a un temps pour tout. Elle m'a dit, c'est vrai que tu commençais à être très très fatiguée, les montagnes devenaient très difficiles. Elle m'a dit, c'est tombé juste au bon moment, une chance extraordinaire.
Et vous écrivez? En effet, le flux est là, vous avez trouvé vos marques.
Oui, ce second roman a été vraiment, évidemment, a été assez difficile après le succès du premier. J'ai eu très peur de ne pas y arriver, ou j'ai eu très peur de perdre ma spontanéité en ayant conscience de tout ce qui attendait le prochain, peut-être pas forcément de manière bienveillante, parce que c'est comme ça que marche, comme ça que ça marche. Et donc je m'y suis jetée, je me suis dit, il faut absolument y arriver, c'est un enjeu. Et j'étais tellement, tellement soulagée lorsque j'ai pu me dire le livre est fait. Et je me suis dit, qu'il marche ou qu'il ne marche pas, ce n'est pas important. Et s'il ne marche pas, eh bien au moins, ça me redonnera peut-être une liberté pour le troisième. Et j'étais contente aussi, je voulais casser l'image du. Il fallait que je casse l'image du grand marin. Donc il fallait que je parle aussi de quelque chose de complètement différent.
Alors, on va y revenir sur cette chose complètement différente, mais je voudrais qu'on en termine avec ce qui s'est passé autour du Grand Marin, avec le recul aujourd'hui, avec un peu de recul, plus de 200 000 exemplaires, 11 traductions, il me semble, un film qui est en cours d'adaptation. Quel regard vous portez sur tout ce qui s'est passé autour du Grand Marin aujourd'hui?
Oh, un regard très incrédule.
Toujours?
Oui, oui. Parfois, je ne suis pas sûre de que ce soit vraiment arrivé. Mais ce qui ça. Lorsque je retrouve ma campagne du Médoc, ça c'est extraordinaire, c'est que ce sont les lieux de l'enfance. Et donc je retrouve donc ces endroits premiers justement où rien n'a existé de tout ça, ni des premiers voyages, ni des choses de la vie, ni des gros bouleversements, ni des. Et donc à ce moment-là, les choses redeviennent, comment dire, ces choses, le succès du démesuré du Grand Marin, et bien à ce moment-là, ce n'est qu'une, c'est une petite, un fait dans la vie, quelque chose qui est arrivé. Et parfois, est-ce vraiment arrivé? Non, je sais que c'est arrivé, je sais que c'est là.
Et quels souvenirs vous en gardez? Alors, tout d'abord, justement, de cette campagne de promotion, là, des rencontres avec les journalistes, les médias, le moment où il faut porter comme ça, défendre son livre. Qu'est-ce qu'on vous y repensez? Qu'est-ce qui émerge immédiatement?
Oh, je pense une certaine déroute, quand même.
Ouais.
Cette impression de perdre mon image, cette image qui était secrète, ça a été très difficile à accepter. J'ai eu du mal à m'en remettre. J'ai du mal surtout à prendre des distances avec tout ça, mais il suffit juste de prendre des distances, comme dans toute chose dans la vie, il ne faut absolument pas, ça n'a aucune importance et ça ne veut rien dire. On sait que les gens dont on parle aujourd'hui, demain, on va peut-être ils seront oubliés, ou alors ils seront, si c'est pas pire, quoi. Donc il faut absolument, absolument pas s'attacher à ce genre de, au succès, dirons-nous. Mais ça, je crois que je le savais depuis longtemps, je ne suis plus toute jeune et j'ai une certaine expérience de la vie.
Et les rencontres, parce qu'il y a aussi les rencontres avec votre public, les lecteurs. Quelles images, quelles sensations, quels souvenirs vous en gardez aussi là, de ces rencontres?
Alors là, c'était formidable. Ça a vraiment été une découverte. J'ai retrouvé les gens. Étant bergère, en fait, j'étais très loin du monde. On peut dire que j'étais parfois un peu désocialisée. Et donc les gens, eh bien, j'en avais peut-être un peu peur, une certaine crainte, une certaine appréhension, une certaine. Et donc, toutes ces rencontres en librairie, j'ai découvert que les gens étaient bienveillants, que les gens étaient intéressants. Il y a un contact qui s'est créé, qui... Ils m'ont apporté énormément. Et c'est peut-être eux qui m'ont porté, en fait, dans toute cette promotion.
Et qui vous portent aussi, peut-être, oui. Pour les livres à venir. Est-ce que vous avez le sentiment, maintenant, de vous devoir à ce public, d'avoir une forme de dette?
J'ai fait attention. Il faut, ce qui était assez difficile pour l'écriture du second livre, je me disais, il faut que tu oublies, que tu arrives à oublier tous ces gens que tu as rencontrés. Que ce soit le succès, comme les gens qui ont aimé ton livre, parce que c'est autre chose. Et tu l'écris, c'est toi qui l'écris. Et tu l'écris pas pour quelqu'un, tu l'écris par rapport à quelque chose que tu voudrais dire, ou quelque chose que tu dois exprimer, ou un aspect du monde que tu voudrais présenter. Et d'ailleurs, je pense que dans ce livre, je présente un certain aspect d'un certain univers qui va déranger pas mal de gens. Et je n'en suis pas mécontente, justement, parce que cet univers, bon, ce n'est qu'une fiction, hein, mais cet univers existe en partie. Et lorsqu'on est écrivain, on doit aussi être témoin en quelque sorte, et on doit dire les choses. Je pense que c'est le premier des devoirs qu'on a.
Pour en finir avec Le Grand Marin, qu'est-ce que, au cours de ces rencontres, qu'est-ce qu'on vous a dit de plus beau sur votre livre ?
Un homme m'a dit, c'était un vieil homme, c'était Arcachon. Il m'a dit, moi je ne suis pas un grand marin, je suis le vieux marin pourri. Ma femme est morte. Mais il dit, grâce à votre livre, je ne vais pas mourir tout de suite. Et un autre homme à Strasbourg, c'était un homme de la campagne, un agriculteur, le visage marqué comme les gens de la campagne. Il est venu me voir aussi, il m'a dit, ma femme s'est suicidée dans la salle de traite, et grâce à votre livre, je vais tenir le coup. Et ce sont des paroles qui vous font venir les larmes aux yeux, et que je n'ai pas, même pas réussi à comprendre. J'ai dit, mais pourquoi, comment ce livre, comment c'est cette histoire de pêche et cette histoire qui pour moi n'est qu'un livre, a pu aider certaines personnes autant.
Alors, Le Cœur Blanc, vous disiez tout à l'heure que cette fois-ci, il s'agit vraiment d'un roman, d'une fiction. En même temps, il y a tout un contexte qui vous est propre, que vous avez connu aussi. C'est ce métier de saisonnier, de travailleur agricole que vous avez pratiqué, donc que vous avez puisé, j'imagine, dans cette expérience.
Oui, mais je répète, c'est une fiction. C'est vraiment une fiction. Il m'est arrivé certains étés, lorsque j'étais saisonnière, la tension montait de manière extrême, par notre fatigue, de par un peu les excès, de par la brûlure du soleil. Je me disais, que se passerait-il si tout s'embrasait? Parce qu'il y a toujours l'automne pour faire basculer cet été. On a l'impression que dans l'été, on monte vers une apogée, on attend cette apogée, on se donne... J'ai l'impression que nous nous donnions de plus en plus fort pour justement aller dans une espèce trouver une espèce de paroxysme. Et je me disais, si le paroxysme venait vraiment, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et là, j'ai voulu essayer de créer ce paroxysme, l'embrasement d'un village, l'embrasement
des corps, des cœurs.
L'embrasement des corps, l'embrasement des cœurs et l'embrasement du désir et l'embrasement de la violence aussi.
Oui, c'est ça qui m'a frappé. C'est encore plus que dans Le Grand Marin, même s'il y avait un peu ce thème. Je trouve que c'est un grand livre sur le désir, la puissance du désir, y compris dans ce que ça elle peut avoir de ravageuse, cette puissance.
Oui, oui, oui. Oui, on pourrait dire que c'est aussi une histoire sur le désir, en fait. Les premiers que l'on voit dans les champs, c'est seulement un désir de liberté ou un désir de justice. Et les seconds, ce sont des désirs qui s'exaspèrent, des désirs... Il y a un certain enfermement chez ces saisonniers, dans cet univers entre les montagnes.
C'est tout leur paradoxe.
Et donc tout monte. Et le désir est exacerbé, le désir donc... Et c'est aussi un livre sur le désir et aussi la soif. Parce que la soif, le désir c'est aussi la soif. Et donc... ils ont tous soif aussi de quelque chose. Mais ne sachant pas tellement de... La première des soifs, évidemment, la plus simple à rassasier, c'est la soif.
La soif au sens premier.
Au sens
concret.
Premier du terme. Mais derrière, il se cache une soif d'autre chose, une soif de liberté, une soif de...
De dignité aussi.
De dignité.
Parce que, alors ça, il faut qu'on y revienne. Vous parlez donc de ce peuple, en quelque sorte, oui. Des saisonniers. Et vous écrivez, je vous cite, « Nous sommes les fruits d'une race increvable, la mauvaise herbe qui ne meurt jamais. » À un autre moment, l'un des personnages dit « On est le rebut », ce qu'on appelle justement dans la cueillette le rebut, c'est-à-dire les fruits abîmés, altérés, et qu'on va jeter, dont on se débarrasse. Donc vous parlez aussi de ce peuple des saisonniers. Saisonniers qu'on ne connaît pas et qui sont une espèce de comme ça d'infra-humanité à laquelle vous voulez rendre toutes ces lettres de noblesse.
Oui, oui, oui. Lorsque je voulais écrire ce livre, je pense que au commencement, je voulais d'abord parler des saisonniers. Après de l'embrasement, après du désir, après de. Mais je ne veux absolument pas qu'on croie que j'ai. Que c'est une critique contre les agriculteurs. Eux aussi souffrent dans leur travail, dans leur vie. Et là, je ne prends part pour personne. Ce n'est pas. Mais je parle donc de ce sentiment d'être les rebuts, cette espèce de sentiment d'être laissé pour compte. Et comme dit Rosalind, à un moment, c'est peut-être qu'un malentendu. Oui, je pense qu'il y a un grand malentendu à la base entre ces deux. Les villageois, c'est normal, ils défendent leur terre, ils défendent leurs racines. Et cette faune qui arrive juste, n'a plus de racines. Donc il erre et peu leur importe de laisser des seringues dans le bac à sable des enfants.
Et ils viennent un peu partout.
Ils viennent de partout, ils n'ont pas de. Ils sont clandestins ou sans papier ou.
Alors, il y a un autre point commun avec Le Grand Marin, c'est que, dans Le Grand Marin, il y avait une femme qui vous ressemblait beaucoup. Ici, il y en a deux, vous créez, il y a deux créatures, deux personnages de fiction, donc Rosalinde et Mounia. Et à nouveau, vous plongez des femmes dans ce qui est un univers d'hommes avec un métier extrêmement physique, dur, violent.
Oui. Mais il y a des femmes qui justement travaillent dans ces. Il y en a beaucoup qui aiment ces travaux physiques et parfois durs, oui. Et si je ne parlais que d'un univers d'hommes, ce ne serait pas intéressant.
Où êtes-vous allé les chercher, ces deux personnages formidables de femmes, Rosalinde ? Vous prononcez comment, vous ? À l'allemande ?
Rosalinde, parce qu'elle
Rosalind,
est allemande, oui.
Elle vient de Hambourg.
Oui, oui.
C'est ça.
Oui.
Bon, alors on va dire Rosalinde.
Alors dans mon esprit, depuis le début, c'était Rosalinde. Mais je ne sais pas d'où elle vient. Alors au début, lorsque j'avais commencé, j'avais l'esquisse de cette histoire. Il y avait un jeu, mais c'était même pas Mounia, c'était une petite personne là qui court sous le soleil. Donc c'était juste vraiment le commencement de cet univers de saisonnier. Et puis après, j'ai changé. Je me suis dit, mais on va oser entrer vraiment dans la créer des personnages qui ne sont absolument pas moi. Je ne suis ni fille de Harki, ni allemande, ni et c'était extraordinaire de découvrir cette liberté.
Que vous n'aviez pas connu avec Le Grand Marin.
Eh oui, c'était extraordinaire de se dire enfin je suis libre de.
Est-ce que vous avez le sentiment d'être devenu justement un écrivain, une romancière à part entière cette fois-ci ?
Oh, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Je pense que ça prend beaucoup plus de temps.
Alors Rosalind et Mounia, donc ce n'est pas vous. En même temps, elles pratiquent un métier que vous avez. Exercer. Donc ça, forcément, ça vous a beaucoup aidé pour restituer ce qu'est leur quotidien.
Évidemment, mais il faut bien. J'aime être juste. Comment dire ? J'ai parlé de l'univers de la paix. Je me dis, je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc j'ai péché. Les saisons. Je parle du monde des saisonniers. Je ne pouvais pas raconter ça comme une touriste. Il fallait quand même que je connaisse un peu la brûlure du soleil, un peu les conditions, un peu la manière d'aller au bout des choses de certains saisonniers. Les premières scènes qui sont... Oui, j'ai vu tout ça, les premières scènes avec les Marocains, j'ai ce racisme inadmissible, eh bien, je l'ai vu aussi. C'est intéressant, j'ai été témoin j'ai même été actrice d'une... De cette vie de saisonnière, oui. Mais c'est grâce à ça, justement, que je me dis que maintenant, je peux en faire une fiction.
Le cœur blanc, qu'est-ce qu'un cœur blanc ?
C'est un cœur pur. Les musulmans parlent parfois de quelqu'un qui a le cœur blanc, c'est-à-dire le cœur pur.
Il y a aussi dans ce livre des pages formidables sur la nature, vos descriptions de la nature, des paysages, mais aussi de la faune. À un moment donné, vous parlez d'un troupeau là, de moutons. Comment, en mots comme ça, alors bon, on se dit bien sûr, elle connaît tout ça aussi par cœur, de par les activités qu'elle a exercées, ce métier de saisonnier et son métier de bergère, mais c'est autre chose de mettre tout ça ensuite sur la page blanche et de mettre ça en mots.
Pour moi, avant tout, il faut voir les images. Il faut voir les images, il faut sentir, il faut... Et lorsque... Je n'arriverai pas à écrire une scène si je ne la vois pas. Je ne peux pas le faire de manière cérébrale. Et les bêtes, je les connais assez. Je connais les bêtes lorsqu'elles ont peur. Les béliers, là, leur souffle spasmodique, donc leur manière de foncer, leur manière de... Et donc, je me dis, il faut que je les sente, ces bêtes. Il faut que je... Alors, j'ai... Cette scène, je savais absolument... je savais que j'allais... Je n'ai pas écrit le livre de manière linéaire, je n'écris jamais de manière linéaire. Donc cette scène, je savais qu'elle allait se placer à un certain endroit, elle était très très importante à partir d'un certain moment, lorsque tout le pays s'embrase, il faut aussi que les bêtes partent au feu. Et donc je l'ai beaucoup beaucoup réfléchi et je n'arrivais pas à m'y mettre parce que je me dis ça c'est terrible, je dis envoyer un troupeau au feu, enfin un petit escouroune, un petit troupeau. Et là aussi c'était difficile. Mais donc... Un beau jour, je me dis, maintenant, tu t'y mets. Et mes images, c'était assez bien. Le film, c'était en moi. Je pouvais le voir. Alors, j'ai trouvé les mots.
Rosalinde, à un moment donné, dit, elle parle avec Mounia, et elle dit, c'est bizarre ce que je te dis, je suis pleine de trop et de vide. Et vous, Catherine Poulain ?
Mais je pense que c'est peut-être les trois quarts des êtres humains. Nous avons un grand vide en nous qui nous taraude et que nous cherchons à combler. Certains, c'est dans la consommation, certains, c'est dans les addictions, certains, c'est dans les... Et de trop, certaines personnes ont du trop aussi, cette espèce d'exubérance, cette chose qui n'arrive pas à sortir, qui n'arrive pas à jaillir, cette bête prisonnière, comme le cheval fou dans la poitrine de Mounia, qui l'a empris. Elle a un cheval fou emprisonné dans sa poitrine qui la tourmente tout le temps.
Et vous, votre cheval fou, qu'est-ce que c'est ? C'est l'écriture ?
Non, je ne pense pas. Je pense que l'écriture vient après. Je ne pourrais pas écrire s'il n'y avait pas d'abord la connaissance sensitive du monde. Comment dire ? J'ai besoin de sentir le monde, de le voir. Je ne pourrais pas rester enfermé dans un bureau et dire maintenant j'écris sur la nature ou sur la première des choses. Il faut le sentir. Il faut être soi-même le cheval fou, je pense. Et après. Oui, peut-être que l'écriture devient le cheval fou qui est emprisonné dans la poitrine, il faut qu'il sorte. D'accord. Mais avant tout, en premier, on est le cheval fou.
Catherine Poulain, gardez ce cheval fou qui est en vous de grâce. On attend donc vos prochains livres et surtout, pour l'instant, eh bien, on va se plonger dans Le Cœur Blanc, publié aux éditions de l'Olivier. Merci.
Merci.